Virginie Langeroc.
La situation s'apaise dans le Lotschental en Valais. Sous très haute surveillance, la rivière Lonza continue de s'écouler vers l'aval. Les millions de tonnes de gravats qui sont tombés depuis le glacier mercredi ont enseveli le village de Blatten et ont obstrué la rivière Lonza. Elle s'écoule donc finalement et remplit progressivement le barrage de Ferdonne en contrebas qui avait été vidé vendredi. À ce stade, la probabilité qu'une coulée de boue et de roches, lave torrentielle, ne se déverse jusqu'en plaine a fortement diminué. Les autorités restent tout de même très vigilantes. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, sera ce soir à Willem, village situé en contrebas de Blatten, pour y rencontrer et soutenir la population. Le conseiller fédéral s'était déjà rendu à Ferdonne mercredi, quelques heures après l'effondrement du glacier. Un point de la situation devrait d'ailleurs débuter en ce moment même dans le village de Ferdonne. La Russie revendique la prise d'un nouveau village dans la région ukrainienne de Soumy. Au total, 213 localités de la région ont reçu un ordre d'évacuation. Plus tôt cette semaine, Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou massait plus de 50 000 soldats près de la région de Soumy en vue d'une possible offensive. L'armée ukrainienne, moins nombreuse et moins bien armée, craint un nouvel assaut d'ampleur qui mettrait à mal ses ressources. Un responsable israélien a déclaré que son pays ne coopérera pas à une visite en Cisjordanie de ministres arabes des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie saoudienne se rendra demain à Ramallah. Selon la chaîne de télévision américaine CNN, des ministres des Émirats arabes unis, d'Égypte, de Jordanie, du Qatar et de Turquie participeraient également à cette visite. Israël contrôle les frontières et l'espace aérien de ce territoire palestinien occupé, ce qui signifie que son approbation est nécessaire pour que les diplomates étrangers puissent y entrer. En France, le mémorial de la Shoah, deux synagogues et un restaurant situés dans le centre de Paris ont été aspergés de peinture verte la nuit dernière. Aucun message ni revendication n'ont été découverts à ce stade. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a condamné ces actes. En football, le FC Zurich nomme le néerlandais Michel van der Gaag, 53 ans, comme nouvel entraîneur. Il succède à Ricardo Moniz, lui aussi néerlandais, qui avait été démis de ses fonctions à l'issue d'une saison jugée décevante. Le FC Zurich a terminé le championnat de Super League en tant que premier du groupe de relégation à la 7e place. La séparation avait été communiquée en début de semaine par la direction du club. À suivre ce soir, le Paris Saint-Germain qui affronte l'Inter de Milan. Ce sera la finale de la Ligue des Champions. Ça se passe à Munich, en Allemagne. Et c'est à suivre dès 21h sur RTS 1 et sur RTS 2. Du soleil, des températures très chaudes aujourd'hui qui frôlent les 30 degrés. C'est le menu de tout ce week-end. Demain également, les températures seront très élevées en seconde partie de journée. Aujourd'hui et demain, quelques averses ou orages restent possibles avec de fortes rafales de vent à proximité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 4 au 19 juillet, les rives du Léman vibreront à nouveau au son du Montreux Jazz Festival. Max Richter, poète des émotions. Joe Bonamassa, maître du blues. Diane Reeves, prodigieuse bête de scène. Diana Ross, reine de la soul. Ou encore Samara Joy, époustouflante vocaliste. Pour sa 59e édition, le festival réunit les plus grands noms. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Le Grand Soir. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
L'oreille d'abord, Catherine Buzer.
Avec la complicité en face de moi de Fred Facio à la régie. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. En janvier, nombreux sont celles et ceux qui pratiquent le « dry January », c'est-à-dire qu'ils ou elles s'abstiennent de consommer de l'alcool pendant tout un mois. Cette belle initiative m'a donné l'envie de les encourager en leur offrant un panorama des compositeurs qui avaient un fâcheux penchant pour la divine. Loin de moi l'idée d'encourager la boisson, mais plutôt de vous proposer une alternative en musique. Depuis la nuit des temps, alcool et musique font bon ménage. Bien avant l'avènement des Gainsbourg, Billie Holiday et autres émissions, Amy Winehouse, les musiciens ont une fâcheuse tendance à chercher leur inspiration dans la divine. De sorte qu'on peut affirmer sans mentir que l'alcoolisme a fait d'énormes ravages dans l'industrie musicale. Et la musique classique n'y fait pas exception. Brahms, Moussorgsky, Beethoven, Reger, Sibelius, Liszt ou encore Stravinsky et Satie furent tous de grands amateurs d'alcool, pour ne pas dire qu'ils étaient parfois des alcooliques notoires. Et saviez-vous qu'en anglais, on se dit « Brahms and Liszt » pour signifier qu'on a trop bu? Charmant, non? Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre la mesure des ravages de l'alcool dans la musique classique en allant à la rencontre de ces compositeurs qui ont peut-être un peu trop vénéré Bacchus. Thank you. quand je bois du vin clairé. Tourdillon, une chanson à boire qui figure dans le livre de Pierre d'Attaignan. Nous l'écoutions ici dans l'interprétation de Rolf Slislevand et ses musiciens. L'alcool coule souvent à flot dans le monde de la musique. La musique sérieuse n'y fait pas exception. Dans l'imaginaire collectif, l'alcool est souvent associé à une forme d'opulence. On ne conçoit pas de célébrer une naissance, un mariage, une remise de diplôme ou un événement festif sans ouvrir une bouteille. Si l'alcool peut être un plaisir plus ou moins occasionnel, il peut aussi parfois être une véritable source d'inspiration. Aussi, les références au flacon et à l'ivresse qu'il procure sont-elles omniprésentes dans le répertoire classique et constituent même un genre à part entière, celui des chansons à boire. Celles-ci sont particulièrement populaires dans les sociétés chantantes du XIXe siècle. Elles sont constituées d'un public essentiellement masculin qui se réunit dans les goguettes et les caveaux dans une semi-clandestinité, car à cette époque, les goguettes sont suspectes aux yeux des pouvoirs publics, de sorte que les chansonniers rivalisent de ruses pour rendre leur gaudriole plus ou moins présente, mais encore plus désopilante, en y introduisant des mots d'esprit dont la finesse contraste avec la vulgarité du contexte. Le répertoire de cette époque est souvent très élaboré sur le plan littéraire, car les grands poètes ne dédaignent pas d'y contribuer. Franz Schubert a largement contribué à alimenter ce répertoire. On lui doit d'innombrables chansons à boire, ou Trinklieder pour cœur d'homme, particulièrement truculent. En voici deux exemples, Trinklieder im Winter et Trinklieder im May.
Das Glas gefüllt, der Nord mit Blüt, die Sonne ist mir gesunken. Der kalte Meer mit Frost an mir, betrunken, Brüder, getrunken, betrunken, Brüder, getrunken. Die Tannen blühen im Kamin und knattern fliegen die Funken. Der müde Rhein gab uns den Wein, getrunken, Brüder, getrunken, getrunken. Verscheucht den Frost und zaubert Frühling hernieder. Der Trinker sieht den Hain entblüht und Büsche wirbeln ihm Lieder, und Büsche wirbeln ihm Lieder. Er hört Gesang und Harfenklang und schlägt durch blühende Augen. Ein Mädchenchor das schnell hervor und bringt ihm goldene
Tannen und zapfet mir Wein, der Mai ist begonnen.
Le plaisir du vin ici dans ces deux chansons à boire de Franz Schubert, Trinklieder im Winter et Trinklieder im Mai, deux trios pour chœur d'homme a cappella. Le chœur Arnold Schönberg était placé sous la direction d'Erwin Ortner. Comme tout artiste célibataire, Franz Schubert a passé une grande partie de sa vie dans les cafés où il ne se contentait certainement pas de boire un verre de jus d'orange, de sorte que les bruits n'ont pas tardé à courir à travers Vienne, que le compositeur avait un certain penchant pour l'ivresse. Après la mort de Schubert, son ami Joseph von Spaun a jugé indispensable de remettre les pendules à l'heure. Et voici ce qu'il dit. De mauvaise langue dépeignait Schubert comme un ivrogne, mais rien n'est plus faux que ses déplorables cancans. On dira à sa décharge que c'est le typhus qui a emporté le compositeur et non pas une cirrhose au foie. Comme Schubert, Mozart appréciait lui aussi les plaisirs du vin. On dira même qu'il était un adepte inconditionnel de la bouteille. Il aimait se rendre dans le quartier de Grinzing, dans le 19e arrondissement de Vienne, très connu des touristes, où se trouvaient déjà à l'époque de nombreuses tavernes. Sa passion pour le vin est étayée par des lettres adressées à sa famille. Mozart écrit ainsi par exemple à sa femme Constance « Je remarque dans la lettre latine que vous ne buvez pas de vin, cela ne me convient pas ». Son penchant pour la boisson semble avoir été assez prononcé, du moins par période, car son père, Léopold Mozart, devait souvent le rappeler à l'ordre. On lui doit notamment cet avertissement, je cite « Je te prie seulement, mon cher Wolfgang, de ne pas faire d'excès. Les vins forts et beaucoup de vins sont nocifs. » Mais Mozart n'en avait cure, et comme beaucoup d'autres artistes, il utilisait volontiers l'alcool comme stimulant pour l'écriture de ses œuvres. L'un de ses vins préférés était le Tokaj hongrois. À la fin de sa vie, il partait souvent prendre des cuites avec son ami Schikaneder, qui était son compagnon de beuverie. Pour mener à bien tous ses projets, Mozart avait de plus en plus besoin de vin, de chansons et sans doute de femmes, ce que l'acteur pouvait lui fournir aisément. Le dernier portrait de Mozart, datant de 1791, soit un an avant sa mort, le montre bouffi et gonflé. Cette représentation a laissé penser que l'abus d'alcool était à l'origine de ce visage ravagé. Aussi n'est-il pas surprenant que l'on trouve dans sa musique de nombreuses références à l'alcool. Plusieurs de ses opéras y font allusion. Dans Don Giovanni, par exemple, Mozart célèbre l'excellent Marzemino, un vin italien. Tandis que dans L'enlèvement au sérail, il reproduit au deuxième acte une véritable scène de beuverie au cours de laquelle il fait entendre une chanson à boire, Vivat Bacchus, hommage au dieu du vin. Pedrillo sert à Osmine un grand verre de vin dans lequel il a glissé un somnifère et l'effet est immédiat. En bon musulman qui ne boit jamais d'alcool, Osmine s'effondre immédiatement, ivre mort.
Und hat Wichtigeres zu tun, als sich deine Flasche Wein zu kümmern. Viva Bacchus, Bacchus lebe, Bacchus war ein braver Mann. Viva Bacchus, Bacchus lebe, Bacchus war ein braver Mann. Ob ich's wage, ob ich's trinke, ob's wohl sehen kann. Was hilft das Zaudern, das Zaudern? Hinter, nicht lang bin ich lange gefragt, nicht lang bin ich lange gefragt.
Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, die Blonden, die Braunen. Sie leben, sie leben, sie leben hoch. Sie leben, sie leben, sie leben hoch.
Das schmeckt trefflich.
Das schmeckt herrlich. Das heiß ich Göttertrank. Viva Bacchus, Bacchus, lieben Bacchus, dir die Wein gewandt. Viva Bacchus, Bacchus, lieben Bacchus, dir die Wein gewandt. Viva Bacchus, Bacchus, liebe. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie lieben hoch. Viva Bacchus, Viva Bacchus, dir die Wein gewandt. Viva Bacchus, Bacchus, liebe. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie lieben.
Glaub mir, Osmin, Wein ist mir viel lieber als Geld und Mädchen. Bin ich verdrießlich oder schlecht gelaunt? Ich greife zur Flasche und kaum sehe ich den ersten Boden, schon ist all mein Verdruss verschwunden. Die Flasche wirft mir keinen schrägen Blick zu, wie mein Mädchen, wenn ihr der Kopf nicht am rechten Fleck sitzt.
Unser großer Prophet mag's mir nicht übel nehmen. Gift und Dolch. Es ist doch eine hübsche Sache um den Wein, nicht, Bruder Pedrillo?
Richtig, Bruder Osmin, richtig.
Man wird gleich so munter, so heiter, so gut gelaunt.
Hast du noch etwas Wein, Brüderchen?
Hör zu, Alter, trink mir nicht zu viel. Es steigt einem leicht in den Kopf.
Mach dir keine Sorgen.
Ich bin so nüchtern wie nur möglich.
Es wirkt, Alter, es wirkt.
Aber verraten darfst du mich nicht, Brüderchen. Darfst du nicht? Oh, wenn's Mahomet wüsste.
Nein.
Wenn's der Bassa wüsste. Denn siehst du, liebes Blondchen? Ja. Oder nein?
Es wird höchste Zeit, ihn fortzuschaffen. Nun komm, Alter, komm. Wir wollen schlafen gehen.
Schlafen? So früh schon schlafen? Es ist ja kaum Morgen.
Die Sonne ist schon hinunter. Komm, dass uns der Bassa nicht überrascht.
Gute Nacht, Brüderchen. Gute Nacht.
Gute Nacht, Brüderchen. Gute Nacht.
Alter Eisenfresser, da hast du deinen gerechten Lohn. Nur fürchte ich, ist's eigentlich noch zu früh. Bis Mitternacht sind's noch 3 Stunden. Da könnte er seinen Rausch schon wieder ausgeschlafen haben. Kommen Sie, Herr, kommen Sie. Konstanze.
Blondchen.
Psst. Die Luft ist rein. Unser Argus ist blind.
Oh, mein Belmonte.
Konstanze, endlich.
Ist's möglich? Und Petrio? Wo ist Osmin?
Na, in seinem Haus.
Nach so vielen
ich
Tagen
ihn
der Angst.
Voll zugedeckt.
Nach so vielen ausgestandenen Leiden
voll wie eine
wieder in meinen Armen.
Dieser eine Augenblick lässt mich meinen ganzen Schmerz vergessen.
Gute Nacht, Brüderchen, gute Nacht.
Ach, Liebste, ich bin so glücklich, dass ich weinen muss.
Voll Wonne, vollen
Vivat Bacchus, Bacchus Lebe, un extrait du deuxième acte de l'enlèvement au sérail de Mozart, ici dans l'interprétation de René Jacobs, à la tête de l'Académie für Alte Musik Berlin, avec en soliste dans le rôle d'Osmin Dimitri Ivashenko. Autre compositeur dont l'organisme a été, semble-t-il, rongé et ravagé par l'abus d'alcool, Beethoven. Sa passion pour le vin lui a été d'ailleurs fatale. Les médecins sont quasi unanimes à affirmer que le compositeur est décédé d'une cirrhose au foie doublée d'une pancréatite. Mais plus de deux siècles après la disparition du compositeur, son cas médical interpelle toujours les médecins et les chercheurs qui publient régulièrement de nouvelles théories. Les problèmes de santé de Beethoven sont relativement bien documentés. On les connaît notamment grâce à ses écrits et à ceux de ses médecins. Aussi est-il avéré que l'alcool faisait partie de l'héritage familial de Beethoven. Son père et sa grand-mère sont tous deux morts de complications directement liées à l'alcool. Beethoven lui-même a commencé à s'alcooliser à 17 ans, après la mort de sa mère, pour noyer son chagrin. Mais il y a pris goût, et très vite on découvre dans sa correspondance qu'il aime boire et que le vin lui procure du plaisir et soulage ses douleurs. Dans un article du Monde qui me sert de référence, on peut lire qu'au seuil de la mort, alors qu'il est dans un état physique déplorable, Beethoven voit encore dans l'alcool un remède à sa douleur. Comment pourrais-je assez vous remercier pour ce champagne excellent, comme il m'a restauré et comme il va me restaurer encore, écrit-il au baron Johann Pasqualati dans ce qui sera une de ses dernières lettres, datée de mars 1827. L'autopsie, réalisée semble-t-il à la demande de l'intéressé, confirme qu'il était au bout du rouleau, ses organes totalement ravagés par l'alcool. Tout porte donc à croire que Beethoven était un alcoolique et que, comme tant d'autres, il aurait succombé à sa cirrhose au foie. Cette thèse est étayée par le fait qu'il souffrait également de saturnisme, c'est-à-dire d'une intoxication chronique au plomb qui a commencé très tôt dans sa vie et qui pourrait aussi être à l'origine de sa surdité. À l'époque, le plomb était omniprésent dans la vaisselle, les flasques de vin, le cristal et l'eau des stations thermales. On en ajoutait même illégalement dans les vins bon marché pour en améliorer la saveur. Or, Beethoven, apprend-on encore dans cet article du Monde, appréciait particulièrement les vins frelatés de Hongrie. Ainsi, directement ou indirectement, il semblerait bien que ce soit son penchant pour l'alcool qui l'ait emporté.
Thank you.
Quelques-unes des variations sur Ich bin der Schneider Kakadu, trio pour piano, violon et violoncelle de Beethoven, ici interprété par le Schweizer Klavier Trio. À la liste des amateurs de bon vin, il convient également d'ajouter le nom de Johannes Brahms, qui lui aussi avait, paraît-il, un bon lever de coude. On connaît même ses crus préférés, les vins du Rheingau, dont il se faisait souvent envoyer des échantillons. Brahms a passé tout l'été de 1883 dans cette région. Il habitait dans la maison d'un propriétaire d'un domaine viticole, un certain Rudolf von Beckerhardt. Et c'est dans le Rheingau que sa troisième symphonie a d'ailleurs été jouée pour la première fois l'année suivante. Brahms était un gourmet et un fin bec. Il aimait la bonne cuisine autant que les bons vins. Son goût de la boisson était bien connu de ses amis, qui racontent volontiers que lorsqu'on lui demandait s'il préférait boire du vin rouge ou du vin blanc, le compositeur déclarait toujours avec malice « d'abord du blanc, puis du rouge pour qu'il ne le prenne pas mal ». Brahms avait, paraît-il, le sens de l'humour et se tenait toujours prêt à faire une bonne blague. Un jour, après un repas somptueux, son hôte fit servir une bouteille de Rauenthal, millésime 1865, un de ces fameux vins du Rheingau que Brahms aimait tant, en disant « c'est le Brahms de mes vins ». Et après avoir goûté le flacon, Brahms aurait dit « excellent, maintenant donnez-nous une bouteille du vieux Bach ». Si l'on en croit la légende, le matin de sa mort, alors qu'il se plaignait d'avoir soif, son médecin lui aurait tendu un dernier verre de vin du Rheingau. Le compositeur l'aurait savouré, très lentement, et puis dans un ultime soupir de bien-être, il se serait exclamé « Ah, Dieu que c'est bon !» Et ce seraient ses derniers mots. Johannes Brahms est l'auteur de cette ouverture pour une fête académique que nous offrait ici Ricardo Chailly à la tête de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Si j'ai choisi de vous faire écouter cette ouverture festive, c'est parce que Brahms y a réuni un pot-pourri de chansons à boire et studentines. On y entend par exemple « Wir hatten gebaut at ein staatliches Haus », le Fuchslied et un hymne étudiant « Gaudeamus igitur » transcrite pour orchestre symphonique. Durant ses années viennoises, Brahms buvait toujours avant de se coucher une demi-bouteille de champagne que lui offrait son éditeur. C'était, disait-il, une ordonnance médicale. Le goût immodéré de Brahms pour l'alcool est à l'origine de l'expression anglaise « to be Brahms and Liszt », une expression qui signifie qu'on a trop bu. Alors vous savez maintenant pourquoi il y a question de Brahms. Voyons ce qu'il en est de Franz Liszt. Comme Brahms, le célèbre virtuose était un grand amateur d'alcool. Si l'on en croit son biographe Alan Walker, l'abbé Liszt ne vivait certainement pas comme un ascète. Les carnets de ses dépenses révèlent qu'il consommait en moyenne une bouteille de cognac par jour, parfois accompagnée de deux bouteilles de vin, et que non content de boire, il fumait volontiers des cigares. Les archives Goethe et Schiller de Weimar possèdent tous ses journaux de dépenses, notamment ceux réalisés entre le 1er juillet 1884 et le 3 avril 1886, dans lesquels on découvre que les principales commandes étaient faites à une épicerie de la Marienstraße et qu'elles concernaient des cognacs, des champagnes, du vin et des cigares.